Dieu est un Dieu qui a des projets. Parfois, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ou même nous, les personnes qui connaissons Dieu, nous voyons Dieu comme étant dans son ciel de gloire, assis sur son trône, passif, immobile et restant comme ça dans son ciel de gloire, dans quelque chose de parfaitement passif. Alors, il est vrai que Dieu ne change pas, il est vrai que Dieu est immuable, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de projet. Dieu est un Dieu de projet. Tout comme nous, nous sommes des êtres, nous avons des projets, Dieu est un Dieu de projet. Dieu est un Dieu qui veut réaliser des choses. Dieu veut faire des choses. Dieu forme des projets. Dieu désire accomplir certaines choses. Et cela nous est attesté à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Par exemple, dans le psaume 33, il est dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Ce qui signifie que Dieu a des projets dans le cœur. Nous, nous avons des projets dans le cœur. Nous nous disons « Demain, je vais faire ceci, l'année prochaine, je ferai cela, dans 3 ans, je ferai cela. » Nous avons des projets dans le cœur. Eh bien, la Bible utilise la même expression pour Dieu, les projets de son cœur. Donc, les projets du cœur de Dieu. La Bible nous dit dans les Proverbes qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel ou c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui signifie qu'il y a plein de projets dans le cœur des humains, mais c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. Encore une fois, un texte qui nous montre que Dieu a bien des projets. Dans la Bible, on voit que Dieu est un Dieu qui décrète des choses, qui décide des choses, et ensuite qui les met en œuvre. Qu'il les met en pratique, qu'il les accomplit. Dieu est un Dieu de dessein, c'est un Dieu de projet, et toute la Bible nous montre cette implication de Dieu dans la vie des hommes. Dieu avait le projet de créer le ciel et la terre. Ce n'était pas un hasard, c'était son projet. Dieu avait le projet de créer l'homme et la femme. Dieu avait le projet que cette terre qu'il avait créé, soit pas juste une terre pour Adam et Ève, mais il avait le projet que cette terre soit remplie, que les humains se multiplient et qu'il y en ait partout. Dieu avait le projet de créer un peuple à partir d'Abraham. Il a appelé Abraham parce qu'il avait un projet de faire un peuple qui sortirait d'Abraham. Mais aussi, c'est aussi quelque chose qu'on lit, Dieu avait le projet de détruire Sodome et Gomorrhe. On voit que Dieu a décrété à un moment donné qu'il détruirait Sodome et Gomorrhe. C'était son projet et il a accompli son projet. Dieu avait le projet d'élever Joseph en Égypte. On voit que Joseph a suivi des chemins sinueux, mais il est arrivé là où Dieu voulait qu'il soit. La preuve, c'est que son rêve s'accomplit. Donc Dieu n'a fait que donner à Joseph une image, une allusion à son projet. Dans son rêve, Joseph a vu quel était le projet de Dieu pour sa vie, même si à ce moment-là, il ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire et ce que ça impliquerait. Dieu avait le projet de sauver Israël d'Égypte. C'était son projet de dire à un moment donné, je les sortirai de là. Dieu avait aussi le projet d'envoyer Christ pour nous sauver. C'était son projet. Et la Bible dit un projet de toute éternité. Alors ça, c'est un peu un mystère, hein, parce qu'on sait bien, c'est toute une question de savoir, oui, mais si c'était de toute éternité, ça veut dire que Dieu avait prévu que l'homme pécherait et tout ça. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais c'était le projet de Dieu. Dieu avait par exemple aussi le projet d'appeler Paul. De l'appeler, de le rencontrer sur le chemin de Damas pour l'appeler. Et cela signifie donc que Dieu, nous l'avons vu, est un Dieu de projet, mais on ne peut pas s'imaginer, nous ne pouvons pas nous imaginer que Dieu est un Dieu de projet et qu'il s'est arrêté dès le départ de Jésus d'être un Dieu de projet. Non, c'est son identité. C'est un Dieu de projet. Et donc, cela signifie qu'actuellement, aujourd'hui, Dieu a des projets pour nos vies, des projets pour cette Église, des projets pour les Églises en Belgique, des projets pour le monde. Dieu a des projets divers et variés aujourd'hui, actuellement. Dieu a le projet de détruire certaines choses, Il a le projet de construire d'autres choses, il a le projet de reconstruire parfois des choses détruites. Dieu a le projet de construire des choses, de réorienter des choses, de sauver, de faire du bien, de déposer sa colère. Dieu a des projets actuellement aujourd'hui. Et cela doit, évidemment, vous autres, est-ce que vous vous dites tous là maintenant, vous vous dites, mais c'est quoi alors les projets de Dieu pour là maintenant? C'est ça que vous vous dites, n'est-ce pas, avec vos yeux pétillants. Mais c'est quoi les projets de Dieu, alors, aujourd'hui, maintenant, et certainement, vous aussi, avec vos yeux pleins de pépites brillantes, vous êtes en train de vous dire, mais moi, c'est quoi ma participation au projet de Dieu? Qu'est-ce que je suis censé faire pour participer au projet de Dieu? Quelle doit être mon implication dans les projets de Dieu? Eh bien, c'est ce que le livre d'Esdras nous permet de comprendre, et en particulier le premier chapitre du livre d'Esdras, il faudrait normalement tout lire, hein, mais voilà, vous pourrez lire à la maison le reste du livre. Ce livre nous parle du retour de captivité des Juifs. Ils sont à Babylone, ils sont en captivité, et les Juifs reviennent de Babylone après avoir vécu ce temps de captivité. Et en fait, le livre nous montre tout simplement que Dieu a décidé de rétablir son peuple. Alors que son peuple a été en captivité, Dieu dit maintenant, je vais rétablir mon peuple. Maintenant, j'ai décidé, je vais ramener mon peuple sur sa terre et je veux que mon temple soit reconstruit, je veux que le culte soit restauré, je veux que mon peuple revienne quelque part. La déportation, ça a été une catastrophe. Hein. Il n'y a pas moyen de... Vous vous rendez compte hein, qu'on est dans notre peuple et puis à cause de la colère de Dieu, vous êtes déportés, vous vous retrouvez tous dans un autre pays. Encore une fois, l'histoire qui se répète, encore en captivité, encore hors de votre terre, encore pris par plein de dieux étrangers, plus d'identité nationale, c'est la catastrophe. Et là, Dieu décide que c'est le moment où il veut restaurer son peuple. C'est le temps où il veut restaurer son peuple, c'est le temps où il veut ramener son peuple là où c'était. Et donc, ce retour en terre sainte et cette reconstruction du temple de Dieu, c'était spécifiquement le projet de Dieu. Dieu avait le projet que son peuple revienne dans la terre et que le peuple reconstruise le temple et que les affaires recommencent. Ça, c'était le projet de Dieu. Et on voit que ce projet, eh bien, vient bien de Dieu, puisqu'au tout premier verset que nous avons lu, Esdras 1:1, il est dit donc la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Donc, ce qu'il se passe après, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui s'est réveillé pour dire maintenant on va faire ça, c'est afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Donc Dieu avait déjà annoncer son intention à l'avance, et maintenant les événements sont en train de se mettre pour que s'accomplisse ce que Dieu avait dit, pour que s'accomplisse le projet de Dieu. Et en fait, c'est dans la prophétie de Jérémie qu'on trouve certains passages qui annoncent justement ce retour. Par exemple, il dit « Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. » Toujours dans Jérémie, il est dit « Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, donc c'est Dieu qui parle, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Donc Dieu avait annoncé à son peuple à partir d'un certain moment donné, je vais vous ramener dans ce lieu. Et donc le verset dit ceci, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma parole en vous ramenant dans ce lieu. Je vais vous ramener dans ce lieu, je vais vous ramener dans le lieu de ma présence pour reconstruire le temple. Et ce verset est suivi d'un verset que l'on connaît très bien. Mais souvent on ne sait pas dans quel contexte ce verset est donné, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et de malheur afin de vous donner un avenir et une espérance. Hein, souvent on cite ce verset, mais c'est à ça que ça fait allusion, ce retour-là. Je connais les projets que j'ai formés pour vous donner un avenir et une espérance. Dieu avait formé un projet pour son peuple, un projet de paix, un projet de bonheur. Autre exemple encore, dans Jérémie toujours, Voici, je vous donnerai la guérison et le salut, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Dieu avait un projet. Le texte nous montre aussi, toujours au tout premier verset, que ce projet avait aussi une temporalité. Ce n'est pas arrivé n'importe quand, c'est arrivé la première année de Cyrus, roi de Perse. Et comme on vient de le lire, c'est arrivé après que soient écoulés les 70 ans passés à Babylone. Dieu avait un projet, mais il avait aussi un temps particulier pour accomplir son projet. Le texte nous précise que le projet de Dieu, c'était non seulement que son peuple revienne en Terre Sainte, mais aussi que le peuple puisse reconstruire le temple de Jérusalem. Et c'est Cyrus, le roi de Perse, qui va initier ce mouvement. Le mouvement d'accomplissement du projet de Dieu, c'est Cyrus qui va l'initier. Comment ? Eh bien, Cyrus, vous l'avez lu, a envoyé, a donné de vive voix et a écrit une publication pour tout le royaume pour ordonner que les Juifs se lèvent, qu'ils retournent sur leur terre et qu'ils rebâtissent le temple de l'Éternel. Et vous avez vu aussi, vous avez été tous ébahis par cette expression dans le texte, n'est-ce pas ? Vous avez vu que il est utilisé une expression très particulière, puisqu'il est dit que Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Premier verset toujours. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit de vive voix et par écrit cette publication dans tout le royaume. Donc pour accomplir son projet, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Il a touché le cœur de Cyrus, il a interpellé Cyrus pour que Cyrus se dise « Allez, maintenant, je dis aux peuples qu'ils peuvent partir. » Dieu a réalisé son œuvre dans le cœur de Cyrus pour que son plan puisse se réaliser. Ce qui est aussi extraordinaire dans le verset, dans le passage, c'est qu'on se rend compte que la même expression est utilisée pour parler des membres du peuple d'Israël, dans le verset 5 d'Esdras 1, Esdras 1, verset 5, les chefs de famille, les chefs de la de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Dieu a réveillé l'esprit de son peuple. Il a réveillé l'esprit de son peuple pour que son peuple se lève et que son peuple avance. Et on comprend donc, en fait, que lorsque Dieu veut accomplir ses projets, lorsque Dieu veut accomplir ses desseins, qu'est-ce qu'il fait ? Il réveille le cœur de son peuple. Il secoue son peuple, il réveille son peuple, et au travers de ça, il accomplit ses desseins. Et c'est toujours à partir de cela que Dieu accomplit ses desseins. Pour accomplir ses desseins, Dieu veut réveiller nos esprits. Pour accomplir ses projets, Dieu veut réveiller les esprits de son peuple. Il veut réveiller l'esprit des membres de son peuple pour que son peuple se lève et pour que son peuple accomplisse ses projets et fasse ce que Dieu a voulu. Pour que son peuple prenne la décision de se lever et de bâtir pour accomplir ce que Dieu a voulu. Et voilà de quoi nous questionner, nous tous aussi qui lisons ce premier chapitre d'Esdras, avons-nous, nous autres, aujourd'hui, 3 septembre 2023, avons-nous l'impression d'être des hommes, des femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, avons-nous l'impression d'être des gens qui sont impliqués à participer au projet de Dieu ? Avons-nous le sentiment, nous, que nous sommes des gens actifs dont l'esprit est réveillé pour accomplir les projets de Dieu, pour accomplir ce que Dieu a prévu. Est-ce que nous nous sentons comme des gens conscients, réveillés, conscients de ce que Dieu veut faire et impliqués pour réaliser les projets de Dieu ? Est-ce que nous avons l'impression que quelque chose de la volonté de Dieu, du projet de Dieu, se bâtit grâce à nous ? Nous sentons-nous impliqués dans les projets de Dieu ? Nous parlons bien ici des projets de Dieu. Il ne s'agit pas des projets de M. X, de Mme Y. s'agit même pas, on pourrait le dire comme ça, même pas des projets d'un responsable d'église ou quoi, mais les projets de Dieu, ce que Dieu veut. Nous sentons-nous impliqués, concernés par les projets de Dieu? Il arrive parfois, dans les autres églises, pas chez nous, bien sûr, il arrive que nos projets, nous en ayons plein. Mais quand on fait le tour de nos projets, c'est très circulaire. C'est moi, mon yacht, ma pergola, mon carport. Maintenant, c'est la mode. Tout le monde veut faire un carport maintenant. J'espère qu'on n'avait pas de carport, hein, parce que... Vous voulez faire un carport aussi ? Oh ! Oh là là ! Ben voilà ! Il en a déjà un, vous imaginez, c'est grave, hein ?
C'était un projet
de l'homme, ça. Ceci dit, c'est bien d'avoir un carport, c'est pas un problème. Avoir une pergola, avoir une véranda, c'est fantastique. Avoir un yacht, est-ce que quelqu'un a un yacht ? Non. Mais il arrive parfois que nos projets soient des projets tellement circularisés autour de notre personne. Alors on pourrait faire une liste de nos projets, quand on va voir nos projets, on dit oh, c'est bien, des projets, t'en as. Mais est-ce qu'ils concernent ou est-ce qu'ils montrent que tu te sens concerné par les projets de Dieu? C'est un problème parce qu'en fait, la Bible nous montre clairement qu'une caractéristique du peuple de Dieu, c'est que le peuple de Dieu est un peuple qui est concerné par les projets de Dieu. Dieu n'a pas réveillé l'esprit de n'importe qui, il a réveillé l'esprit de son peuple, parce que Dieu travaille avec son peuple. Dieu réalise ses projets avec son peuple. Alors on peut dire aussi qu'il a utilisé Cyrus, qui n'était pas un membre de son peuple. Mais prioritairement, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il interpelle son peuple. Et vous savez, on en a déjà beaucoup parlé de ce passage, vous savez que c'est pendant que l'histoire d'Esdras et du peuple de Dieu, pendant que cette histoire est en train de se réaliser, que notamment le prophète Agée a prophétisé. Donc Jérémie a prophétisé pendant ce temps-là, Agée a prophétisé pendant ce temps-là, et c'est Agée, au tout premier chapitre, Agée chapitre 1er, 2 à 4, c'était Agé qui disait « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » Donc le peuple disait « Oui, non, ça va, on a le temps, c'est pas le temps. » Et alors il continue au verset 4 et il dit au peuple « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ?» Ainsi parle l'Éternel, considérez attentivement vos voies. Est-ce le temps pour vous d'habiter des maisons lambrissées alors que la maison de l'Éternel est détruite? Et donc le peuple, en fait, c'est exactement ça, ils étaient occupés à leur carport. Ils avaient des maisons lambrissées. Mais ils ne considéraient pas important de bâtir la maison de l'Éternel, la maison de Dieu. Et parfois, dans nos vies, évidemment, aussi dans les églises, parfois on pense que ce qui est important, c'est d'être actif pour Dieu. Il faut être actif pour Dieu. Enfin, on dit ça comme ça. Parfois on pense que c'est il faut être actif dans l'Église. Il faut faire quelque chose dans l'Église. Comme ça, on dit voilà, j'ai fait quelque chose pour Dieu et je suis actif. Parfois, on pense qu'il s'agit juste d'être en action pour être en action. Mais en fait, il s'agit pas de ça. Il s'agit plus que de ça. Il s'agit quelque chose de plus fondamental. Il s'agit que nos vies soit des vies qui participent activement au projet de Dieu. C'est pas juste est-ce que j'ai le cœur disposé à faire une chose ou à faire une autre, c'est est-ce que je souhaite ou est-ce que je me considère comme quelqu'un qui doit nécessairement agir pour permettre au projet de Dieu de se réaliser. On voit que là, c'était quelque chose qui tenait au cœur de Dieu, c'était sa maison. son temple, son sanctuaire, la maison de Dieu. Et si on lit dans la Bible, on voit que la maison de Dieu, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose d'essentiel, c'est comme un fil conducteur. Dieu a ce temple, cette maison, où on lui offre un culte, cette maison pour sa gloire, mais c'est aussi la maison qui représente la communion entre Dieu et le peuple. C'est là que Dieu communie avec son peuple, sa maison. Mais en fait, l'expression « la maison de l'Éternel » renvoie aussi plus simplement à tout ce qui est important pour le cœur de Dieu. Hein, sa maison, c'était important pour le cœur de Dieu. Ça représente tout ce que sont les intérêts de Dieu, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui pèse pour le cœur de Dieu. Mais ma maison est détruite, la maison où on m'adore, la maison où on me loue, la maison où je rencontre mon peuple est détruite, ça me tient tellement à cœur. Est-ce que ça vous tient à cœur aussi? Quand nous sommes enfants de Dieu, tout ce qui est important pour le cœur de Dieu devrait aussi être important pour nous. Tout ce qui tient au cœur de Dieu devrait aussi tenir à nos cœurs. Sinon, nous avons une maladie spirituelle que nous devons traiter. Si Dieu a des choses importantes sur le cœur qui ne sont pas importantes pour nous, ou que nous trouvons tellement secondaires, nous devons traiter notre maladie. Parce qu'en réalité, notre vie n'est grande que dans la mesure où elle participe au projet de Dieu. Notre vie n'a du poids, de la beauté, de la valeur que si elle participe au projet de Dieu, pour la simple et unique raison que tous les autres projets sont des projets qui sont des projets finis, temporels. Hein, vous avez déjà certainement vu des familles comme ça où les parents n'ont pas d'enfants, ou alors il y a des soucis avec les enfants, et vous voyez comme ça une maison qui n'est pas habitée depuis des années, des années, des années. En fait, les propriétaires sont tous les deux morts et la maison est en train d'être détruite. Vous dites, mais c'est une belle maison, mais il n'y a rien, il y a des pissenlits partout. Ça se détruit. Aussi important soit ce que nous avons fait, il y a un temps où ça va se détruire. Si nous créons une entreprise, c'est un temps limité, c'est fantastique. Mais tout ce que nous faisons, nous, sur Terre, c'est à échéance limitée. À un moment donné, ça va passer, ça va être détruit. Et c'est comme ça, on ne sait rien y faire. Par contre, les projets de Dieu sont des projets qui ne finissent pas. C'est des projets qui sont éternels. Ou ce sont des projets à retomber éternels. Ça veut dire qu'en soi, la chose que nous faisons, que nous voyons, n'est pas éternelle. Mais les retombées, les conséquences sont de nature éternelle. Et donc chaque fois qu'un homme ou une femme se dit « je vais participer par telle ou telle chose au projet de Dieu », eh bien je suis en train de faire quelque chose à la dimension éternelle. On ne sait pas trop comment ça va se passer au ciel, mais il est possible, peut-être, par grâce, que quand nous serons au ciel, nous verrons les retombées de ce que nous avons fait sur terre. Peut-être que Dieu nous fera la grâce de voir une personne à qui nous avons parlé de Jésus et qui est là parce que nous lui avons parlé, peut-être. Mais il y a donc des retombées éternelles. Dieu peut-être nous montrera toutes les choses, toutes les conséquences durables, éternelles, qu'auront eu certaines de nos actions. La plus belle et la plus grande dimension de nos vies, c'est lorsque nous participons au projet de Dieu. Il y a tant de projets de Dieu qui sont révélés dans la Bible. Le projet de Dieu, c'est de sauver les âmes perdues, bien sûr. Et ça, ça tient, ça compte pour son cœur. Le projet de Dieu, c'est de rendre son Église sainte. Rendre chaque membre de son peuple saint. Faire de son Église un peuple mis à... Ça, c'est important pour Dieu. Une église sans tache, sans rides, sans rien de répréhensible. C'est important, c'est son épouse. Il veut que son épouse se purifie, il veut que son épouse grandisse dans la foi, il veut que son épouse soit belle. C'est fondamental, hein ? Je vais pas dire le contraire. Dieu veut que son épouse soit belle, Dieu veut que chaque membre de son peuple grandisse spirituellement. Ça tient au cœur de Dieu. Mais nous avons vu aussi dans le passage que Dieu veut consoler ceux qui souffrent, ceux qui peinent, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont embrigadés dans la tristesse. Nous avons vu que Dieu veut aussi délivrer les captifs. C'est important. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu veut ça. Il veut que la bonne nouvelle soit annoncée. Il veut que celui qui est captif soit délivré. Il veut que celui qui souffre soit relevé. Et ce sont des actions à retomber importantes. Le projet de Dieu, c'est des familles pleines de la lumière de Christ. Ça, c'est important pour Dieu. Des foyers mis à part pour lui. Des foyers pleins de sa lumière, pleins de sa parole, pleins d'amour pour lui. Ça, c'est important pour Dieu. Dieu veut se faire connaître à toutes les créatures. Dieu veut que tout homme, toute femme le découvre, le rencontre. C'est important pour lui. Mais Dieu aussi, c'est ce que la Bible nous montre, Dieu veut détruire les œuvres du diable. Rappelez-vous le verset, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est aussi ce que Dieu veut détruire les œuvres du diable. Dieu veut instruire l'ignorant, Dieu veut faire grandir la justice sur la terre, et on pourrait continuer sans fin tous les projets de Dieu. Et pour chacun de ces projets de Dieu, nous avons la possibilité, en tant que membres de son peuple, de prendre part, de poser des actions qui nous font entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu a prévu. En allant distribuer des flyers, en parlant de Christ, nous participons au projet de Dieu de sauver les perdus. Oui, nous ne sommes pas en train de nous amuser pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, nous sommes en train de participer au projet éternel de Dieu. Lorsque nous sommes là et que nous voulons encourager un frère dans la tristesse, dans la difficulté, nous sommes en train de participer au projet de Dieu qui veut relever celui qui tombe. L'Éternel relève celui qui est courbé, dit l'Écriture. Lorsque nous encourageons quelqu'un, nous relevons celui qui tombe. Lorsque nous prions pour quelqu'un qui est enchaîné dans les liens du diable, nous participons à l'œuvre de Dieu puisque Dieu veut délivrer les captifs. C'est aussi la Bible qui nous le dit. Lorsqu'on donne un bon exemple à ses enfants, par exemple, on participe au projet de Dieu qui veut des familles mises à part, des enfants qui le connaissent. Lorsqu'on donne de l'argent pour une œuvre chrétienne, on participe au projet de Dieu. Comme nous l'avons vu la semaine passée, cette œuvre « Un temps pour aimer » où ils vont dans les hôpitaux pour encourager les familles, eh bien, lorsqu'on fait un don pour ce genre d'œuvre, on participe au projet de Dieu. Alors, en réalité, il y a deux types de participation au projet de Dieu. Il y a les participations directes et les participations indirectes. Disons que si vous faites partie du ministère qui nous a parlé la semaine passée et que vous vous mettez dans le costume de Mickey ou de Donald ou je ne sais pas quoi, et que vous allez dans les hôpitaux et que vous prenez la main des enfants et vous les encouragez, tout ça, c'est une contribution directe. Vous êtes directement en train d'encourager un enfant qui souffre. Mais si vous donnez de l'argent à cette œuvre pour qu'on puisse acheter le costume de Mickey, de Donald, pour aller dans les hôpitaux, ben vous contribuez de façon indirecte au projet de Dieu. Et c'est important que nous le comprenions parce qu'en fait, nous avons possibilité d'agir pour les projets de Dieu de façon directe et de façon indirecte. Et le texte nous le montre, puisque on voit que, et c'est en fait beaucoup plus clair dans la suite, on voit que, et c'est la même chose dans l'Exode, on voit qu'en fait, le peuple de Dieu a amené des trésors, des dons, pour qu'on puisse reconstruire le temple. Donc, celui qui est en train de mettre la brique du temple de l'Éternel, on peut dire qu'il bâtit la maison de l'Éternel. Celui qui met la brique, il bâtit la maison de l'Éternel. Mais celui qui donne de l'argent pour qu'on achète la brique, lui aussi, il bâtit la maison de l'Éternel. De façon indirecte, mais ça ne change rien. Aucune de ces contributions n'est inutile. Et nous pouvons tous prendre part à ces œuvres fantastiques de Dieu, à ces projets de Dieu, et notre vie aussi prend une épaisseur quand c'est comme ça. Parce qu'elle ne tourne pas dans le rond-point incessant de notre petite personne, Ah, donc, vous connaissez ce rond-point-là? Non. C'est, en fait, c'est un rond-point. C'est un vrai rond-point, comme le rond-point pas loin d'ici, avec le marcheur près de chez Christiane. Sauf qu'en fait, sur ce rond-point, c'est vous. C'est une statue de vous. Vous voyez l'idée? Donc vous êtes là, sur, au milieu du rond-point, et en fait, vous passez votre vie à tourner dans ce rond-point-là. Et donc tout ce que vous faites tourne autour de vous, et de vous, et de vous. Mais il n'y a pas de sortie au rond-point, c'est un rond-point incessant. Et vous vous admirez, et qu'est-ce qui se passe à la fin? On a le tournis, et on rate sa vie. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas ce rond-point, hein. Bon. Mais c'est pour dire que parfois on a une vie qui est tournée, qui est centrée sur nous-mêmes, et qui finalement n'amène rien, ne produit rien. Et Dieu veut que nous portions des fruits, pour sa gloire, et pour aussi donner, on pourrait dire comme ça, du sens à nos vies. De dire, je sais pourquoi je fais ça, je sais où je vais, je vais participer au projet de Dieu. Alors comment ça se met en place? On a vu que le texte nous parle du réveil des esprits. Dieu réveille l'esprit de Cyrus et puis il réveille l'esprit de son peuple pour que son peuple se dise, allez, maintenant il est temps, nous devons nous lever, nous devons bâtir, nous devons y aller. Premièrement, il y a donc ce premier aspect du réveil des esprits, c'est que Dieu nous interpelle, nous fait nous rendre compte, aïe aïe aïe, il y a des choses à faire. Dieu nous fait prendre conscience de ce que nous devons faire et il nous fait aussi prendre conscience de l'importance de ce que nous devons faire. Il nous fait prendre conscience des enjeux aussi. Dieu nous fait prendre conscience, par exemple, qu'il veut réconcilier les personnes qui sont en conflit. C'est important pour Dieu. Et comme nous en sommes conscients, nous allons comprendre que c'est important que nous participions à ça. Dieu va nous faire comprendre qu'il veut purifier son Église. Et donc nous allons nous impliquer dans cette action-là, en priant, en nous-mêmes, en étant des modèles, en nous purifiant nous-mêmes, etc., etc. Nous allons prendre conscience que Dieu veut, donne de l'importance à la louange de son nom, à ce qu'on le loue, à ce qu'on le célèbre. C'est ça la maison de Dieu. Et donc nous allons nous impliquer dans le ministère de louange, parce que nous avons pris conscience que c'est important pour le cœur de Dieu. Donc premièrement, je prends conscience du projet de Dieu, je prends conscience de comment je dois entrer dans le projet de Dieu et je prends conscience de l'importance de ça. Et puis deuxièmement, il y a la décision de s'impliquer dans le projet de Dieu. Il y a la décision, n'est-ce pas? L'acte de décision d'agir pour entrer dans les projets de Dieu. On est conscient et puis on agit. Et c'est tellement encourageant de voir, par exemple, en fin juillet, on a eu cette réunion pour Espoir 2023. C'est tellement encourageant de voir le nombre de personnes qui étaient là. Et on n'a rien fait, on n'a pas téléphoné à qui que ce soit, on a juste annoncé, on a juste dit, voilà. Tellement de gens qui étaient là, c'est tellement encourageant. Quand Dieu réveille nos esprits, quand Dieu nous interpelle pour que nous prenions conscience de l'importance des choses, mais pas seulement, mais aussi qu'on passe à l'action. Parce que savoir que c'est important, c'est une chose, mais passer à l'action, c'est quand même une autre chose. Nous passons à l'action. Comme dirait le texte, nous nous levons et nous bâtissons. Alors passer à l'action, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être prier, ça peut être construire avec nos mains, tondre, nettoyer, distribuer. Ça peut être parler, donner un conseil, donner une exhortation. Ça peut être prier, ça peut être donner, comme on le disait, donner de l'argent, donner des dons matériels. Ça peut être partager des informations, du contenu. Ça peut être organiser, ça peut être aussi parfois de juste être là, mais de ne pas être là comme un endormi, mais d'être là avec le cœur ouvert, avec une disposition de cœur à agir. Tant d'actions que nous pouvons mettre en œuvre pour bâtir, pour entrer dans les projets de Dieu. Et bien évidemment, ce message fait particulièrement consonance à ce moment de la vie de notre Église où nous avons plein de projets, n'est-ce pas? Un projet de refaire le bâtiment, un projet de faire Espoir 2023, un projet de remettre ça en place. C'est fantastique, tous ces projets que nous avons. et nous bénissons Dieu pour tous ces projets, eh bien c'est aussi l'occasion pour chacun de nous, non seulement de nous réjouir, parce que les projets sont des projets qui ont des visées indirectes. Nous allons refaire cette salle. Évidemment que le projet n'est pas que la salle soit refaite. C'est une participation indirecte au projet de Dieu. Pour que quand cette salle est refaite, c'est un lieu beaucoup plus accueillant pour que l'on puisse annoncer l'Évangile, pour que l'on puisse accueillir de nouvelles personnes. C'est toujours la volonté de s'impliquer dans les projets de Dieu, d'agir dans les projets de Dieu. Nous ne sommes pas des affamés d'espoir 2023 pour dire « Oh oui, il faut qu'on fasse comme les autres églises, comme ça ». Non ! Mais ça participe au projet de Dieu. Et tout ce que nous voulons faire, c'est pour que les projets de Dieu s'accomplissent. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qui est déjà le cas. Et nous supplions Dieu aussi pour que nous puissions toujours aller plus loin et que chacun de nous, n'est-ce pas, nous ayons à notre niveau l'esprit réveillé pour ne pas que la maison de l'Éternel se bâtisse sans nous. Ce serait quand même triste. Mais pour qu'aussi chacun de nous, nous puissions prendre part à ces projets de Dieu. Alors ce matin, nous pouvons aussi nous demander, premièrement, est-ce que nous sommes impliqués pour accomplir les projets de Dieu, tout simplement? Est-ce que ça a de l'importance pour nous? Nous pouvons nous demander, quels sont les projets de Dieu aussi? Parce que dans ma famille, actuellement, qu'est-ce que Dieu voudrait réaliser dans ma famille? Et comment moi je peux participer à ce que Dieu veut faire dans ma famille? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans mon église, dans cette commune, et comment moi je peux participer? Est-ce que ce qui est important pour Dieu est important pour moi? C'est une bonne question, ça, pour voir si nous sommes attachés au projet de Dieu. Est-ce que ce qui est important pour Dieu est important pour moi? Et parfois, il va nous falloir beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement pour comprendre quelle est notre participation, quelle est notre place au projet de Dieu. Mais Dieu va le faire, il va réveiller notre esprit pour que nous trouvions, que nous comprenions, et il m'a donné le discernement pour comprendre que Dieu nous appelle à tel ou tel ministère, pour comprendre qu'il nous appelle à être un soutien pour telle ou telle personne, d'agir dans un sens ou dans un autre, d'avoir une conversation avec telle ou telle personne dans tel sens, de faire un don à telle œuvre, de faire tel sacrifice pour tel ou tel projet. Dieu nous conduit là-dedans. Il va nous conduire pour que nous puissions nous aussi être comme le peuple en Esdras, un peuple qui se lève, un peuple qui bâtit et un peuple qui accomplit les projets de Dieu. Que ce soit notre partage à tous ce matin. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta parole si claire, si encourageante, si bienfaisante aussi. Nous voulons te prier de nous aider tous, Seigneur, quel que soit l'état où nous sommes, quel que soit là où nous en sommes, aide-nous tous, Seigneur, à avoir à cœur tes projets. Seigneur, tu dis qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Ça veut donc dire que ce n'est pas un mal d'avoir des projets. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des projets. Et tu bénis parfois nos projets. Mais Seigneur, aide-nous aussi, non seulement à nous intéresser à tes projets à toi, et aide-nous aussi dans nos vies à mener notre vie de telle sorte qu'elle soit orientée vers tes projets. C'est ce que nous voulons te demander, Seigneur. Mets tes fardeaux sur nos cœurs, mets tes projets dans nos cœurs, pour que nous puissions agir dans ces projets, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs à tout ce que tu veux faire, à ce que tu veux réaliser, et en particulier aujourd'hui pour notre Église, dans ces temps de travaux qui commencent, ces temps d'action qui commencent, ces temps de préparation qui commencent. Seigneur, aide-nous tous, fortifie-nous tous pour que nous participions à bâtir la maison de l'Éternel, à œuvrer à ce qui est important pour ton cœur, Seigneur. Nous te le demandons comme tes enfants avec un vrai désir que tu agisses. Au nom de Jésus. Amen.